Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Eh bien, l'Antiquité avec un grand A, elle est bien représentée à l'Université Paul Valéry Montpellier III, université qui assure des formations d'excellence, on va en parler, en ce qui concerne la littérature, l'histoire, l'archéologie, et une université qui ouvre notamment au public des conférences passionnantes pour tous ceux qui s'intéressent à la recherche, et en ce qui me concerne, vous le savez, chers auditeurs, à la recherche sur l'Antiquité. Ce fut le cas dernièrement en février, où se tint un colloque dédié aux volailles. Ça vous semble un peu bizarre, mais on va en parler. Aux volailles de l'Iran à la Méditerranée occidentale, du 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'était pas hier, au début de notre ère. Donc, Antiquissimo a choisi de recevoir l'organisateur, un des deux organisateurs de cet événement du mois de février, et organisateur de beaucoup d'autres choses, on va en parler. Il s'agit de Christophe Chandezon, que je salue, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom.
C'est parfait. Et bonjour à tous et à toutes, évidemment, d'abord.
Alors donc, l'université, elle est tout près de Nîmes et pas mal de Nîmois la fréquentent. Et vous avez une place particulière donc, dans cette université. Vous êtes enseignant-chercheur et vous faites énormément de choses. Donc, vous avez habilité à diriger beaucoup de recherches. Et ces recherches concernent l'histoire, la civilisation, l'archéologie. Et l'archéologie des sociétés méditerranéennes, en utilisant pas mal de sources, on va en parler. Et donc, vous enseignez, vous êtes porteur du master Mondes Anciens, et vous enseignez l'histoire de l'Antiquité, l'histoire de la Grèce. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, alors pour le master, nous avons fusionné ce master Mondes Anciens, je précise juste, c'est un détail, ce point-là, avec un master qui était tourné vers l'archéologie des périodes un petit peu plus anciennes. Et voilà, ça a changé à la fois de pilote et ça a changé de nom, mais l'esprit est resté le même. Et effectivement, je suis moi-même professeur, alors je dis d'histoire ancienne, même si je travaille essentiellement sur les Grecs, parce que l'époque de la Grèce romaine, notamment, m'intéresse tout particulièrement.
Oui, et on va en reparler. Vous avez publié beaucoup de choses et vous intéressez depuis longtemps aux animaux, notamment, on va en parler. Mais avant d'évoquer ces recherches, puisque vous l'avez compris, donc il s'agit de diffuser un enseignement, mais d'appeler, de susciter les recherches auprès de beaucoup de jeunes que vous arrivez à motiver et à réunir. Mais dans ce cadre de l'université Paul Valéry, il y a le musée des moulages aussi, qui est un musée original. Et j'ai vu sur le net que vous étiez particulièrement actif pour susciter des capsules.
Alors, rendons à tout seigneur, tout honneur, la directrice du musée des moulages est ma collègue d'archéologie grecque, Rosa Plana.
Oui.
Donc, c'est elle qui est largement à l'initiative de ces capsules. Mais effectivement, j'invite vos auditrices, vos auditeurs à aller les voir. Elles sont disponibles, par exemple, sur des grandes chaînes d'Internet de vidéos. Et oui, ce musée des moulages, en règle générale, est quand même un instrument absolument remarquable de présence et de communication autour de l'Antiquité au sein de l'Université Paul Valéry. Si je peux encore me permettre une phrase, je dirais juste, on est assez fiers de ça à l'Université, qu'avec le dépôt d'œuvres grecques authentiques du Louvre, la présence évidemment de moulages de plâtre qui ont été achetés par l'Université à la fin des années 1880 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec donc ses originaux, ses copies, d'une certaine manière, dans toute la grande région occitanie, le musée des moulages est l'endroit où on peut le mieux percevoir l'histoire de l'art grec et même d'une certaine manière ce qu'a été la culture grecque dans l'Antiquité.
Oui, alors c'est fabuleux. Ce n'est pas qu'un musée comme on l'entend, c'est un musée qui se prête à la recherche, qui se prête à l'archéologie.
Tout à fait. Et c'est un musée qui a été constitué, donc je vous le disais, à partir des années 1880. C'est une volonté du ministère à l'époque, parce que ces collections de moulages, ou en fait, pour résumer, vous avez des copies des plus célèbres statues grecques, dont les originaux sont dispersés aux quatre coins du monde. Donc, on en faisait des copies en plâtre, et comme ça, on pouvait avoir dans le même espace telle statue qui se trouvait au Musée national à Athènes, telle autre qui était au British Museum, telle autre encore qui était au Musée du Louvre ou à Berlin. Donc, voyez, on a constitué ça dans le 19e siècle pour enseigner l'histoire de l'art grec, et c'est les Allemands qui ont été pionniers. Et après la défaite de 1870-71, la France a pris a fait la constatation d'un certain retard dans ces sciences de l'Antiquité par rapport à l'Allemagne, le retard de la France, et il y a eu la volonté de fonder un certain nombre de musées sur le modèle des musées des moulages allemands dans des grandes universités françaises. Et Montpellier a été choisi pour le Midi. Il y avait aussi Bordeaux, il y avait aussi Lyon pour mentionner que la partie sud de la France. Et Montpellier a été choisi et le musée a été inauguré lors de grandes fêtes qui s'élèvent la naissance de l'université au Moyen Âge et qui se sont tenues en 1890. Et depuis, ce musée n'a jamais quitté l'enceinte de l'université. L'université s'est déplacée deux fois à l'intérieur de la ville de Montpellier. Elle était à l'origine en bas de la rue de l'université dans l'actuel rectorat, puis elle s'est retrouvée dans le bâtiment à côté de la cathédrale, et puis dans les années 60, elle a été déplacée là où nous la connaissons, et à chaque fois, on a tenu à ce que le musée des moulages suive l'université. Et aujourd'hui, ça sert encore en quelque sorte à mettre nos étudiants en prise directe avec des copies en trois dimensions, des œuvres dont ils entendent parler dans leurs cours.
Et alors en plus, ces étudiants se font eux-mêmes les passeurs, hein, puisque ils sont les acteurs des capsules que j'ai pu voir sur YouTube, par exemple. Et en 2 minutes, si je crois me souvenir du temps, en 2 minutes, on présente une œuvre, par exemple.
Exactement. Et c'est les intervenants qui choisissent eux-mêmes l'œuvre dont ils ont envie de parler. Parfois, ils en parlent en chercheurs qui connaissent très bien cette œuvre. Parfois, ils en parlent plus en public ils exposent un peu ce qu'ils savent de l'œuvre et également ce qu'ils ressentent face à cette œuvre. Mais voilà, vous avez cette variété des approches et cette modernité en quelque sorte du regard qu'on peut toujours avoir à l'heure actuelle, dans les années 2020, sur ces grandes œuvres de l'Antiquité, que ce soit par exemple les frontons du Parthénon, l'Auriche de Delphes, l'Hermès de Praxitèle, ou bien alors des vases peints à Athènes à l'époque classique.
Ou des stèles funéraires, ou voilà.
Les funéraires aussi, évidemment. Il y en a eu beaucoup d'exemplaires achetés par le musée et elles ne sont pas toutes exposées, hein. Nous disposons d'une réserve dans laquelle il y a, je ne peux pas vous dire le nombre, mais je pense facilement une centaine d'œuvres. L'ensemble de la collection est formé de 700 moulages et je ne vous parle pas des pièces authentiques. Et puis nous avons lancé aussi, au milieu des années 2010, nous avons relancé une politique d'acquisition d'œuvres, donc ce qui fait que les collections s'enrichissent de manière régulière. Et les dernières arrivées notables, ça a été, pour citer la plus récente, une copie de l'Éphèbe d'Agde, où le plâtre est teinté patiné couleur bronze pour vous donner une vision de cette œuvre-là. Il l'a replacé dans son contexte de création, disons à l'époque hellénistique. Et puis, autre œuvre qui est assez récemment entrée dans le musée, c'est une statue célèbre, le dieu de l'Artémision. Vous savez, cette grande statue de
Oui.
bronze qui hésite entre Zeus et Poséidon, qui était naguère exposée à Montpellier dans le quartier Antigone, puis qui avait dû être retiré de l'espace public pour diverses raisons, et que la municipalité, la mairie de Montpellier, a accepté de déposer dans le musée pour le long terme, et où désormais, vous voyez, on peut voir cette statue. Alors là, cette fois-ci, cette copie est effectivement en bronze, ça n'est pas du plâtre patiné.
Alors, les étudiants peuvent aller librement dans ce musée des moulages. Comment ça se passe?
Tout à fait. Tous nos étudiants peuvent y rentrer librement, sans avoir de droit à quitter. On tient juste une petite comptabilité parce que c'est quand même important pour justifier le maintien de cette structure, d'afficher des listes de fréquentation, des statistiques de fréquentation. Donc nos étudiants peuvent y rentrer librement. Le public extérieur peut s'y rendre. Il y a un petit droit de visite à acquitter, mais qui est vraiment modique. La chose à laquelle il faut prendre garde, c'est que comme c'est un musée universitaire, il est tenu par les calendriers universitaires. Ça veut dire que très souvent, pendant les vacances universitaires, il est fermé. Ça veut dire aussi, par exemple, que le matin, le musée se consacre à la conservation, à la recherche, et il n'ouvre qu'à midi et reste ouvert jusqu'à la fin de l'après-midi dans la semaine. Et évidemment, l'université ne fonctionnant pas le dimanche, le musée est fermé le dimanche.
Bien sûr.
Et le samedi, je précise.
Donc moi, je trouve ça vraiment formidable et il faut aussi parler des conférences qui s'appellent les Mercredis de l'Antiquité. Alors là, c'est plus dans le musée des moulages, mais
Ouais.
qui se situe au musée Fabre. Et ça, je tiens à en parler parce que c'est vraiment à chaque fois salle comble pour des sujets passionnants. Quelle sera la prochaine, par exemple?
Alors là, je ne suis pas bien placé pour vous répondre. J'ai été avec Rosa Plana à l'origine de la création des Mercredis de l'Antiquité. C'était dans les années 2010, hein. Oui, je crois que j'ai fait 13 cycles de conférences. Depuis 2 ans, j'ai souhaité passer la main à des collègues plus jeunes et je dois vous avouer que je suis les choses d'un petit peu plus loin, donc je ne serai pas capable de mémoire de vous
Bien
dire
sûr.
quelle est la prochaine conférence, mais la thématique de cette année, c'est sur la parure. Donc, vous voyez, le vêtement, les bijoux et éventuellement comment le corps était mis en valeur.
Alors là aussi, il faut souligner que ces conférences, elles sont ouvertes à tous, hein, et il faut simplement se dépêcher d'arriver, enfin arriver à l'heure en tout cas pour avoir une place. Voilà.
Tout à fait. Oui, et c'est assez fréquent, effectivement, que la salle, les portes soient fermées pour des raisons de sécurité par le musée Fabre, parce que la salle, tous les sièges sont occupés, et on est assez souvent dans le regret de devoir dire à des auditeurs qui ont fait le déplacement qu'on ne peut plus les accepter, hein. Donc, comme vous l'avez conseillé, effectivement, arriver un peu en avance est pas mal si on tient véritablement à assister à la conférence.
Alors, je voudrais maintenant, Christophe, vous poser des questions tout à fait banales, mais qui m'intéressent toujours. Comment êtes-vous arrivé à cette passion de la Grèce? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a pris tout petit, comme Obélix? Est-ce que vous êtes tombé dedans tout petit, ou est-ce que c'est venu après?
Alors, faut que je vous fasse une réponse nuancée sur ce point. Ma véritable passion de départ, et ça vraiment tout petit, c'est l'histoire. D'emblée, je crois que depuis le moment où j'ai su lire, j'ai beaucoup aimé lire des ouvrages d'histoire. D'abord des ouvrages pour enfants, puis des choses un petit peu plus complexes. Et donc, après la fin du lycée, c'était évident que j'allais m'inscrire dans une formation en histoire. Ensuite, quand on choisit ce parcours, il y a une question qui finit par se poser au bout de 2 années d'université. C'est celle de choisir une spécialité, un peu comme ça se passe d'ailleurs pour des médecins, hein, qui
Oui.
vont dire je prends plutôt dentaire ou plutôt chirurgie, etc. Donc, vous voyez, il s'est posé cette question-là. Il se trouvait aussi que je crois que j'ai toujours été assez intéressé par Rome au départ. La découverte du latin m'a fait plaisir, a été quelque chose de stimulant. Et voilà, au départ, je pense que j'aurais plutôt parié si j'avais choisi l'Antiquité, mais ce n'était pas un choix qui était une évidence non plus. Je pense que je me serais peut-être plus orienté vers Rome. Et puis, il se trouve que pour fêter le baccalauréat, je suis allé en Grèce, en voyage. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est la Grèce actuelle, presque autant que la Grèce de l'Antiquité. Et À la fin de la licence, il m'est apparu que j'avais envie de me spécialiser dans l'histoire de la Grèce, mais je pensais plutôt à la Grèce du 19e siècle. Sauf que c'est une spécialité qui n'existe quasi pas en France.
Oui.
J'étais incapable de trouver un directeur de recherche, et puisque la Grèce contemporaine ne marchait pas, ben, je me suis reporté à la Grèce ancienne. Je n'ai pas du tout envisagé l'époque byzantine à cette époque. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire de l'histoire grecque.
Et comme on va le voir dans la deuxième partie de l'émission, cette histoire de la Grèce ancienne colle aussi avec le monde moderne et toutes les recherches que l'on peut faire. Mais ça, ce sera dans un petit moment après la pause musicale. À tout de suite, Christophe. Alors, c'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo consacrée à Christophe Chandezon et à l'Université Paul Valéry Montpellier III, dans lesquelles il organise beaucoup d'événements. Et nous parlions de son parcours, de sa passion pour l'histoire, qu'il a mené par des chemins détournés à la Grèce, que ce soit la Grèce moderne qu'il adore ou la Grèce ancienne. Et du coup, il a énormément publié de choses s'intéressant, je l'ai vu ça et là, par exemple, aux rêves. Hein, déjà, vous avez beaucoup publié là-dessus et sur l'interprétation des songes. Et là, on est encore, ça pourrait paraître très freudien, très moderne, mais on est encore en rapport avec l'Antiquité.
Ah oui, tout à fait. Alors oui, c'est très freudien, effectivement, par certains côtés, mais c'est un projet que nous avons développé avec un collègue. Alors lui est helléniste, c'est-à-dire qu'il a été formé dans les langues anciennes, qui s'appelle Julien
Dubouché.
Duboucher. On cherchait un moment un texte sur lequel travaillaient tous ensemble hellénistes historiens, hellénistes spécialistes de la langue et de la littérature. Et on avait été plusieurs à croiser cet étrange ouvrage, alors qu'on appellera en grec les onéirokritika, ça veut dire simplement l'interprétation des rêves d'Artémidore d'Aldis. C'était un grec qui vivait à la fin du deuxième siècle de notre ère et au début du troisième siècle. Et qui vivait en Asie mineure et qui a rédigé un grand traité d'interprétation des rêves qui s'inscrivait dans toute une tradition qui avait commencé dès le 5e siècle avant notre ère, donc vous voyez à peu près 600 ans auparavant en Grèce, et qui étaient des traités, on dirait un peu des clés des songes, c'est-à-dire des textes où on vous dit si vous avez rêvé de ceci, ça signifie cela. Donc Artémidore avait repris ce genre, il était passionné par la divination et il avait en même temps intégré dans son ouvrage aussi toute une théorie sur les rêves. Alors ce texte est absolument remarquable, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu un dictionnaire des idées reçues de l'Antiquité. C'est-à-dire, si vous rêvez d'une chose, ça va en
Oui.
signifier une autre, mais par des, en quelque sorte, par des lieux communs, assez souvent. Et donc, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'environnement culturel des hommes de cette époque-là. Et ce texte remarquable n'a jamais été édité dans la collection Budé, c'est pas la peine de le chercher. C'est un texte assez ennuyeux à lire si on doit le lire d'un bout à l'autre, d'une certaine manière. Et il n'a jamais non plus été édité dans la collection équivalente du côté anglophone, c'est-à-dire la collection Loeb. Donc on a commencé à travailler là-dessus et à se poser des questions sur quels étaient les usages du rêve dans la Grèce ancienne. Et on continue à travailler à ces questions-là.
Alors oui, ça a donné lieu à un livre paru en 2014 aux Belles Lettres et qui crée ces ponts, ces connexions entre ce monde du rêve d'avant et peut-être notre monde du rêve d'aujourd'hui. Et justement, même si on change de domaine, on verra que la démarche est un petit peu la même puisque vous intéressez, je trouve ça passionnant, aux connexions entre l'histoire, la géographie, l'économie, la société, la culture, et vous abordez donc ce monde grec, ce monde méditerranéen, d'un point de vue très moderne, en créant des ponts entre toutes ces disciplines et en ne vous contentant pas de l'histoire pure et simple.
Alors oui, tout à fait. Il faut vous avouer que j'ai jamais eu beaucoup de goût pour un aspect de la recherche historique, tout à fait légitime, qui plaît beaucoup à pas mal de mes collègues, qui est, allez, on va dire, l'histoire des institutions, l'histoire des guerres. Mais en revanche, j'aime comprendre comment les hommes de ces temps-là percevaient leur monde, comment ils l'organisaient culturellement, symboliquement. Et voilà d'une certaine manière ce qui m'a amené dans les différentes directions que j'ai prises, c'est-à-dire, vous voyez, pour les principales, l'histoire du rêve et des usages du rêve, et puis l'histoire des animaux.
Oui, voilà. La zoogéographie.
La zoogéographie, alors c'est qu'une forme de cette recherche, la zoogéographie. D'ailleurs, ça consiste à essayer de voir comment les espèces animales étaient réparties sur le globe à différentes époques. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'anthropozoologie, c'est-à-dire l'histoire des relations entre les hommes et les animaux et l'évolution de ces relations.
Et alors là, ça nous mène directement à ce colloque que vous avez organisé avec, je crois, Damien Agut de Laborderie,
D'aborder.
pardon, du CNRS. Et vous avez, pendant 2 journées passionnantes, alors j'ai eu la chance de pouvoir écouter quelques conférences, le 18-19 février 2026, organisé ce colloque qui s'appelle Pour une histoire des volailles de l'Iran à la Méditerranée occidentale. J'ai déjà tout à l'heure donné le titre entier et les limites chronologiques qui sont assez grandes. Et on observera que vous avez réussi à réunir des chercheurs de tous horizons. J'ai noté qu'il a été question du Japon, de la Mésopotamie, de Persépolis. Alors bien sûr, moi, ce qui m'a intéressé, c'était les conférences du jeudi après-midi sur la céramique grecque, puis ensuite sur les oies dans l'Occident romain. Le lendemain aussi, il a été question des autruches avec un chercheur de Madrid, je crois. Il a été question du pigeon et de son élevage à l'époque romaine en Gaule. Et enfin, il a été question de l'ensériculture, nous sommes toujours avec les oies du coup, et de la colombiculture en Égypte ancienne. Bref, on est là dans des mondes qui ont l'air d'être semblables, mais pas du tout, et dans des géographies et des époques tout à fait différentes. Comment ça a été été possible de réunir tous ces gens. Et là, il faut que je me dépêche de vous en faire parler parce qu'il nous reste 2 minutes pour le dire. Mais c'est assez impressionnant.
Alors, je vais essayer d'être concis. Ah, il y a des recherches hein, dans ces domaines-là, et notamment, par exemple, une discipline qui s'est développée depuis une trentaine d'années qui s'appelle l'archéozoologie. C'est-à-dire que quand vous fouillez, vous trouvez des os d'animaux, et ces os d'animaux, en les étudiant, vous pouvez les attribuer à telle espèce. Ça, c'est souvent dire s'ils sont des os de mâle ou de femelle, donc vous voyez, de quel oiseau, de quel mammifère, et puis vers quel âge ces animaux ont été abattus. On en apprend même de plus en plus avec l'évolution des techniques. Et puis par ailleurs, on le constate tous, nos rapports avec les animaux à l'heure actuelle sont en train de changer. Donc on se pose des questions sur la façon dont on doit fonder ces nouvelles formes de rapports et on recherche dans le passé comment les cultures plus anciennes ont géré ce rapport avec les animaux. Donc voilà, ça c'est un point. Deuxième point, quand on parle de l'élevage, en règle générale, on a tendance à penser aux grands mammifères. Et c'est souvent ce qui a retenu l'attention. Donc, vous voyez, les bœufs, les moutons, les chèvres, les cochons, etc. Mais nous sommes partis de cette constatation actuelle. Savez-vous que dans le monde, la viande de poulet est la deuxième viande la plus consommée après la viande de porc? Comment c'est possible? Alors même que l'espèce poulet, alors s'appelle Gallus gallus techniquement, hein, en vocabulaire zoologique, c'est une espèce qui n'est absolument pas originaire d'Europe, puisqu'elle est arrivée du sud-est asiatique, au début du premier millénaire avant notre ère. Donc, vous voyez, un oiseau qui est arrivé, qu'on a commencé à élever, je parle du coq et donc de la poule, qu'on a commencé à élever parce qu'on trouvait son plumage intéressant, qu'on a commencé à élever parce qu'on aimait le spectacle des combats de coq, et dont on a ensuite progressivement découvert que ça pouvait être un complément alimentaire, on pouvait l'intégrer au sacrifice, ces oiseaux-là pondaient des œufs. Et donc il s'agit de voir comment ces élevages de volailles, les autres aussi, donc les oies, les pigeons, etc., ont pris progressivement une place importante dans l'histoire des élevages, dans l'Antiquité, et ont commencé à bâtir les premiers éléments d'une structure qui est la structure qu'on connaît à l'heure actuelle avec cette importance du poulet.
Mais écoutez, ça nous donne une bonne idée de ce livre qui sera en préparation, mais pas avant 2 ans, m'avez-vous dit, sur le sujet. La semaine prochaine, on entendra une des chercheuses qui ont fait la conférence, Nicolina Kay, parler des oies et compagnie dans les images grecques. Je vous remercie infiniment, Christophe, et je vous dis à bientôt parce que n'hésitez pas à nous faire part de tout ce que vous faites.
Merci et à bientôt donc.
Au revoir.
Au revoir.